Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Non mais dès que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Oui, cher monsieur, la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est l'heure de le mettre.
Mais ça n'est pas tout de rouge, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure on s'arrête pour aller casser la graine.
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution par exemple, on ne sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu salis le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que Blanchard est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sans mes foutus pas grand,
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est dans le mètre.
Dans le mètre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
C'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs, et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais tu vas forcément toucher, les jamais tomber en panne de pause. C'est tant qu'on ne connaît pas. C'est quand même curieux, alors. 100 fois, tu dis, jamais, je ne peux pas
en panne. Merde, mon arôme, merde.
Avec un lait du poil, avec un lait du poil.
Aujourd'hui, mercredi 24 août 2022, c'est la Saint Crimes, Délits et Contraventions. Saint Crimes, Délits et Contraventions sont les saints patrons du Code de l'Action Sociale, du Code des Assurances, du Code de l'Aviation Civile, du Code Civil, du Code de la Commande Publique, du Code du Commerce, du Code des Communes, du Code de la Consommation, du Code des Douanes, du Code de l'Éducation, du Code électoral, du Code de l'Énergie, du Code Général des Collectivités Territoriales, du Code Général des Impôts, du Code Monétaire et Financier, du Code de l'Organisation Judiciaire, du Code du Patrimoine, du Code de la Justice Pénale des Mineurs, du Code Pénal, du Code Pénitentiaire, du Code de Procédure Civile, du Code de Procédure Pénale, du Code de la Recherche, du Code de la Route, du Code de la Santé Publique, du Code de la Sécurité Intérieure, du Code de la Sécurité Sociale, du Code des Transports, du Code du Travail, du Code du Travail et du Code de l'Urbanisme, et qui, tous, à un moment ou à un autre, n'ont pas été respectés. Saleté de délinquants, va ! Stationnement gênant ou abusif, changement important de direction sans avertissement préalable, excès de vitesse, usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, refus de priorité, non-respect de l'arrêt au feu rouge ou au stop, circulation en sens interdit, défaut du port de la ceinture de sécurité, bruit ou tapage injurieux troublant la tranquillité d'autrui, entrave à la circulation des personnes, entrave à la circulation d'un véhicule de particulier. Corruption, diffamation, harcèlement sexuel, abus de biens sociaux, abus de confiance, abus de faiblesse, abus sexuel, agression sexuelle, apologie de crimes de guerre, association de malfaiteurs, atteinte à l'action de la justice, corruption et trafic d'influence, délit d'initié, délit de conduite sous l'état d'un empire alcoolique, diffusion de fausses nouvelles, délit de fuite, détournement de fonds publics, escroquerie. exercice illégal de la médecine, extorsion, faux, favoritisme, incendie volontaire, injures et outrages, injures racistes, mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, outrage public à la pudeur, prise illégale d'intérêt, racket, recel, subornation de témoins, usurpation de vol, usurpation de fonction, vol, voyeurisme, favoritisme faux et usage de faux, fausse déclaration de patrimoine, fraude fiscale, complicité de détournement de fonds publics, harcèlement moral, complicité de financement illégal de campagne électorale, atteinte à la vie privée, faux témoignage, conflit d'intérêts. Empoisonnement prémédité ou aggravé, disparition, forcée, extorsion en bande organisée, recel d'un crime puni de la perpétuité, destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par incendie de bois, forêt, lande, maquis, service public ou plantation, livraison à une puissance étrangère de troupes appartenant aux forces armées françaises, attentat par une personne dépositaire de l'autorité publique, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, délaissement d'un mineur de 15 ans suivi de la mort de celui-ci, livraison à une puissance étrangère des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale, entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, fournir à une puissance étrangère les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression. Et c'est ainsi que furent canonisés 5 crimes, délits et contraventions pour toutes les promesses et pour certaines déjà tenues de ce deuxième quinquennat Macron. Aujourd'hui, mercredi 24 août, le soleil s'est levé, tout au fond de l'espoir comme des bateaux qui cherchent un phare. Il va se coucher d'un regard plus bleu que l'espoir d'un coup de rein assassin. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, lecampusil.com et le DAB+. Et ce soir, dans l'heure de le mettre, nous vous proposons un long, très très long quart d'heure en Palestine. Nous vous proposons d'écouter Dominique Vidal et Jean-Paul Chagnolo de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée et Moyen-Orient, et Cécile Coudriou, la présidente d'Amnesty International France. Et ce quart d'heure en Palestine est consacré au rapport d'Amnesty International sur la situation d'apartheid envers le peuple palestinien. C'est l'heure de le mettre.
Rue Fontaine, l'autre semaine, je vois un type élégant saluer de manière hautaine, messieurs les commerçants. Je m'étonne, je questionne, c'est votre député sûrement. Tu débarques de Carcassonne, me dit un passant. C'est monsieur Bébert, le roi des gangsters, qui a trois revolvers. Il a deux Chrysler et puis un Spider qui est peint en vert. Ici c'est son bled, pour qu'on le dépossède, faudra se lever tôt. Et puis il exerce un fameux commerce qui rapporte gros. Il fait de l'opium avec du calcium et des boules de gomme. Il fait de la coco avec des copeaux et du cacao. Il fabrique un tas de stupéfiants qui ne stupéfient personne pourtant. Il les vend quand même très cher et c'est le roi des gangsters, Bébert. Des familles se mettent en vrille pour élever leurs enfants. Des bons emplois qui fourmillent, eh bien, il n'y en a pas tellement. V'là un zèbre qui est célèbre, qui se fait 10 millions par an. Il ne connaît pas l'algèbre, ni le grec, ni le persan. C'est monsieur Bébert, le roi des gangsters, qui a trois revolvers. Au café Vépler, quand il prend un verre, il fauche la cuillère. Comme il est le caïd, c'est le garçon livide qui lui demande pardon. Et parfois lui glisse même tout le service en douce dans le veston. Il fait de la morphine avec de la vaseline et de l'ovomaltine. Des bidons d'éther avec de l'eau de mer et des somnifères. Il a le meilleur des commerces en gros. Et pas de patente et pas d'impôt. Ni de taxes sur le chiffre d'affaires. C'est le roi des gangsters, Bébert. Plein de principes font tout pour qu'on parle d'eux. Découvertes scientifiques ou alors des raids audacieux. Lui, pas bête, en manchette, défraye tous les journaux. Drame du milieu qu'on lui prête avec des articles et des photos. C'est monsieur Bébert, le roi des gangsters, qui a trois revolvers. Certains soirs d'hiver, on a découvert un homme ventre ouvert. Alors on l'arrête, on fait une enquête, il ne sait rien de rien. L'erreur judiciaire serait une sale affaire. Il rentre chez les siens. Alors aussitôt, il refait de la coco avec de la choux et des munitions avec des bouts de plomb et des boîtes de thon. Quand il aura ses coffres bien pleins, il rentrera dans son petit patelin et il sera conseiller au maire et l'ennemi des gangsters. Bébé, il sera conseiller au maire et l'ennemi des gangsters. Bébé.
Un quart d'heure en Palestine.
Bonsoir à toutes et tous pour cette controverse à 18h30 à l'IREMO autour du rapport d'Amnesty International sur le régime d'apartheid israélien. Comme chacun ici le sait, cette notion d'apartheid était encore marginale il y a 10 ans dans la critique de la politique israélienne. Elle est devenue centrale, à la fois en raison de la radicalisation même de la politique des gouvernements israéliens, mais en particulier, je crois, en raison du vote de la loi du 19 juillet 2018, dont je rappelle que l'article 1 stipule, je cite, seul le peuple juif a droit à l'autodétermination nationale en Israël. Si seul le peuple juif, pas les autres. Donc on a là la base d'une inégalité structurelle de la situation des Palestiniens. Depuis un an et quelques, on a 3 très solides rapports qui ont amplement documenté l'analyse de ce régime d'apartheid. Le rapport de Betselem, qui date, je le rappelle, du 12 janvier 2021. Ensuite, le rapport de Human Rights Watch, qui date du 27 avril 2021. Et le rapport d'Amnesty, qui date donc du 2 février de cette année. Alors, cette caractérisation du régime israélien comme un régime d'apartheid, que personnellement je partage, fait néanmoins encore débat, y compris, pour être clair, au sein du mouvement de solidarité en général et du mouvement pacifiste et même anticolonialiste en Israël. Et ce débat, on va le voir tout à l'heure, mais je le résume, porte en particulier sur 4 questions. D'abord, la pertinence même d'une analyse globale en raison de la différence des situations à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et en Israël, où, bien sûr, comme chacun sait, les Palestiniens bénéficient du droit de vote, du droit d'être élu, d'avoir des partis politiques, etc. Deuxième point de débat, c'est la comparaison avec l'Afrique du Sud, qu'appelle naturellement la notion d'apartheid dès qu'on la présente, même si ce n'est pas la référence à l'Afrique du Sud qui a guidé les rapports dont je parlais. Troisièmement, le sentiment chez certains que l'analyse d'une domination juive sur la Palestine, en termes d'apartheid, appellerait en fait non plus la solution des 2 États, mais la solution d'un État commun ou même d'un État binational, comme réponse, avec l'expérience historique de l'Afrique du Sud, à une situation d'apartheid. Et puis, quatrième élément de débat, évidemment important, notamment pour ceux qui sont sur le terrain, le caractère productif ou contre-productif de l'utilisation de cette notion. Donc pour en débattre, 2 invités, une vraie invitée, Cécile Coudriou, qui est présidente d'Amnesty International France depuis 2018, c'est ça. Elle est par ailleurs enseignante en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Paris-Nord, où elle a créé une antenne jeune d'Amnesty International France. Elle dispense des cours en anglais sur les médias, la culture et la communication dans le monde anglophone. C'est ça. Et puis l'autre invité, mais il est chez lui, donc
un faux invité,
un vrai faux invité, c'est Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités, président de l'IREMO et directeur de la Confluence de la revue Confluence Méditerranée. Donc je propose qu'on passe la parole à Cécile Coudriou pour nous dire un peu quelle a été au fond la démarche d'Amnesty dans la préparation et la publication de ce rapport. Après quoi Jean-Paul pourra intervenir.
Merci beaucoup Dominique. Donc quelques rappels parce que tout le monde n'est pas forcément familier de notre fonctionnement. Dominique vient de le rappeler, effectivement c'est un mouvement mondial et ça n'est pas une fédération. C'est très important de comprendre ça tout de suite. Il y a 64 sections organisées hein, au niveau national qui ont toutes les mêmes positions, les mêmes positionnements, les défendent de la même façon. Donc ça c'est une première chose à rappeler, c'est un mouvement mondial et sa vocation justement lorsqu'une recherche a été effectuée à être portée et à faire campagne de la même façon à travers le monde. Ce que sont nos trois piliers, je dirais. Le premier pilier, c'est la recherche. Et bien sûr, la recherche elle-même va se subdiviser, on va dire, en deux types de recherches qui sont complémentaires, c'est-à-dire une recherche de terrain. Amnesty International est connu pour cela, avoir des chercheurs qui sont formés à recueillir des témoignages, à les croiser, à les vérifier. Donc c'est bien sûr un aspect important, la recherche de terrain, parfois des recherches d'éléments de preuve aussi lorsqu'il y a des violations des droits humains. Donc ce n'est pas une ONG humanitaire, c'est bien une ONG de droits humains qui fait donc de la recherche sur le terrain. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la recherche académique. Et en toute humilité, évidemment, on ne prétend pas avoir toujours inventé la roue. Et donc bien souvent, on va aussi construire notre propre recherche sur des recherches antérieures et sur toutes sortes de conclusions qui ont pu être tirées par d'autres organisations. Et donc ça, c'est vraiment le premier pilier, celui de la recherche. Le second, c'est bien sûr le pilier de plaidoyer. D'ailleurs, on se définit comme une ONG de plaidoyer et non pas humanitaire, comme je le disais. Donc plaidoyer auprès des autorités à tous les niveaux pour essayer de faire bouger les lignes et avoir un impact, et pas seulement dénoncer, mais aussi proposer. Et enfin, troisième pilier et pas des moindres, cette recherche n'a de sens que si ensuite elle est relayée à travers des campagnes. Et là aussi, elles seront relayées de la même façon à travers le monde. Et donc ça peut bien sûr donner aussi une idée de notre identité spécifique. Donc là, vous avez vu effectivement une présentation d'un rapport qui est quand même assez particulier. Donc je voudrais y revenir aussi, de par sa complexité, de par sa longueur, de par le temps que nous avons mis à le produire, plus de 4 ans, ce qui est quand même assez inhabituel. Mais en même temps, la première chose que je voudrais rappeler, c'est que ça ne veut certainement pas dire qu'on a attendu tout ce temps pour s'intéresser à la situation israélo-palestinienne. Évidemment, cela fait des décennies et des décennies que nous dénonçons des violations sur ce terrain particulier. Et j'en profite pour rappeler que dans la recherche, il y a vraiment deux principes clés que nous avons à cœur de toujours respecter, même si nos détracteurs disent parfois le contraire. C'est celui d'indépendance financière, donc, indépendance financière grâce à la générosité du grand public, comme on dit, mais aussi l'impartialité qui en découle. Et c'est pourquoi nous nous caractérisons justement, entre autres, par le fait que nous avons aussi dénoncé des violations commises par des Palestiniens, notamment par le Hamas, à plusieurs reprises. Certaines recherches ont fait état de violations, si j'ose dire, des deux côtés, sans pour autant mettre dos à dos, car évidemment, il n'y a pas d'équivalence entre les violations d'un côté et de l'autre. Mais c'est important quand même de rappeler cela. La particularité de ce rapport-là par rapport à d'autres, il faut vraiment le souligner, c'est que justement l'aspect, je dirais, académique, hein, la recherche plus académique et juridique, a été particulièrement poussée, même si bien sûr ça s'est croisé aussi avec des recherches de terrain, avec un recueil de témoignages. Et il est important de dire que les associations dont nous avons pu bénéficier aussi du travail et des témoins, ce n'est pas seulement du côté palestinien. Nous avons également entendu des ONG israéliennes. Nous avons également eu à cœur de voir du côté des experts en droit international, notamment sur ce concept d'apartheid, mais pas seulement, en droit israélien, qui est particulièrement complexe. Et donc tout cela a conduit effectivement à aller plus loin que d'habitude dans ces processus de validation qui nous caractérisent. En général, c'est une section qui fait un rapport et ensuite il est donc en lien avec les chercheurs du secrétariat international, validé, on a un département spécial pour ça, et puis il est publié et il est porté. Pour celui-là, considérant que c'était un sujet particulièrement sensible et vraiment sujet à controverse, pour le coup, nous avons procédé à des couches et des couches de validation et c'est ce qui explique le temps que cela a pris. Notamment parce qu'effectivement, il y a des choix qui ont été faits. Donc ce sont des choix qui sont aussi politiques, alors pas au sens de politicien, mais un choix stratégique, en ayant en fait une vision, bon après qu'on peut partager ou pas, je crois que justement mon voisin ne va pas la partager, mais en tout cas je voudrais expliquer tout de suite que l'idée c'était de se dire voilà, ça fait des décennies qu'on travaille sur cette question et qu'on met des focus, rapport après rapport, sur différentes situations. Par exemple, un usage excessif de la force qui va jusqu'à des homicides illégaux, une pratique de la torture en détention arbitraire, une pratique systématique de la détention administrative, la dépossession des terres et des biens. Et donc c'était finalement assez, je dirais, parcellaire, avec des focus sur des temps particuliers. Et si je pouvais employer une image, je dirais presque que c'est un peu comme des points. Et ensuite, l'idée a été de tracer une ligne entre ces points et de montrer que justement, bien plus qu'on ne pouvait éventuellement l'imaginer, tout cela est non seulement lié, mais finalement fait système. Et c'est là qu'a émergé cette idée de non seulement appréhender, mais de rendre opératoire, en tout cas nous l'espérons, ce concept d'apartheid, en allant finalement encore plus loin que ce qui avait été fait précédemment. Alors évidemment, il faut rappeler que Bethlehem a été la première organisation à dire que l'apartheid était en fait un système global. Nous ne sommes pas les premiers, mais nous sommes les premiers à avoir eu les moyens, y compris des moyens financiers, il faut bien le dire, pour faire un travail aussi long. Alors en quoi a-t-il consisté? Il a consisté non seulement à aller sur le terrain, mais aussi, je pourrais employer le terme de d'éplucher, c'est pas très élégant, mais c'est vraiment ça, en tout cas de faire une analyse extrêmement fouillée et minutieuse de toutes les lois, toutes les politiques, y compris des politiques publiques, par exemple d'urbanisme, des choses vraiment du quotidien qui font finalement la réalité quotidienne de la vie des Palestiniens par rapport à celle des Israéliens. Il y a également une analyse, moi ça m'intéresse en tant que professeur de communication, des discours politiques qui ont été faits depuis des décennies par les responsables politiques eux-mêmes pour voir si finalement il y avait quelque part une forme de revendication insidieuse, pas forcément très ouverte, de cette séparation, on va dire, entre les deux peuples et cette définition aussi en tant que peuple. Et donc la question effectivement de la recherche d'une analyse la plus poussée possible de ces lois, de ces politiques, mais aussi de ces pratiques, fait qu'à un moment donné, on se dit effectivement, ce concept d'apartheid devient tout à fait pertinent. Et la différence avec ce qu'on a pu imaginer parfois, c'est que en fait, même si les situations sont différentes, évidemment, l'expertise d'Amnesty est ancienne, on sait très bien que des personnes qu'on appelle parfois les citoyens arabes d'Israël ou arabes israéliens, même si ça ne plaît pas à tout le monde cette expression, ne sont pas dans la même situation que ceux qui vivent dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie ou encore à Jérusalem-Est. Nous avons parfaitement conscience de la diversité de ces situations. Et c'est là qu'il y avait un petit risque stratégique, j'anticipe sur les critiques, effectivement, à se dire que malgré cela, malgré ces différences que nous reconnaissons, il est important à un moment donné de dire qu'il y a bel et bien tout de même une approche holistique, une approche globale à avoir pour mieux aussi discerner la responsabilité et surtout quelque chose qui est fondamental dans le droit international pour ce qui est de la qualification du crime d'apartheid, c'est-à-dire l'intention. Alors je voudrais quand même répéter très vite pourquoi on parle d'apartheid et pourquoi ce mot choque. Évidemment, le mot, on ne pourra jamais l'éviter, parce que d'abord c'est le vocable lui-même qui est bel et bien dans la langue afrikaans, un mot qui est lié à l'histoire de l'Afrique du Sud. Pour autant, entre-temps, il est entré dans le droit international, il s'est quelque part universalisé, en tout cas c'est cette vocation qu'il a, pour éviter à tout jamais, malheureusement ce n'est pas exactement le cas, que ce système d'apartheid puisse voir le jour ailleurs. Donc Amnesty International a fait une recherche poussée pour comprendre ce que c'est que ce concept et l'appliquer ensuite à différentes situations. Et donc l'idée, c'est de montrer que la responsabilité de l'État d'Israël, et j'ai bien dit de l'État d'Israël, et non pas de toute la population israélienne, est vraiment d'avoir progressivement, même si la graine était là quand même dès le début, cette volonté de créer un État juif, ce qui est parfaitement leur droit, mais un État juif à l'exclusion d'autres citoyens, là, ça pose d'autres problèmes. Et c'est là que, finalement, quelque part, il y a comme une graine qui, finalement, a progressivement produit un système où, dans le quotidien, différents mots-clés, comme la fragmentation territoriale, qui a donc, effectivement, empêché ce peuple palestinien de se développer comme un peuple, même s'il continue de se définir comme tel, surtout parfois en réaction, d'ailleurs, à la domination. Ça, c'est aussi intéressant. Et le peuple juif lui-même se définit aussi comme juif. Alors j'en profite pour dire ça même un petit peu vite, là encore, excusez-moi, pour rappeler que ce mot de groupe racial a parfois choqué aussi, parce qu'on va nous répondre, et bien sûr que ce n'est pas exactement le terme qu'on devrait employer quand on parle du peuple juif ou du peuple palestinien. Mais on sait bien aussi que dans ce concept et dans son universalisation, ce qui est important, c'est la façon dont un peuple se définit. Et là, force est de constater que les autorités israéliennes ont bien souvent répété le peuple juif et les non-juifs. Donc il y a vraiment cette séparation extrêmement claire, même dans la langue et dans le discours qui est employé. Et donc ensuite, fragmentation, ségrégation, discrimination systématique et une domination, qui est donc vraiment le mot-clé pour comprendre ce système institutionnalisé qu'est l'apartheid. C'est une domination qui va infiltrer en fait toutes les politiques, toutes les pratiques et la vie quotidienne. Et donc, à un moment donné, effectivement, ce qu'il faut prouver pour parler non pas seulement d'un système, mais aussi d'un crime d'apartheid, qui relèverait donc de la Cour pénale internationale, c'est de pouvoir prouver que des crimes tels que les transferts forcés, ou les homicides illégaux, ou la torture, par exemple, sont des crimes qui sont donc caractérisés comme des actes inhumains, commis avec l'intention de maintenir ce système de domination systématique et institutionnalisée. Donc c'est très difficile à prouver devant une cour, évidemment, la cour de La Haye en l'occurrence. Il n'y a pas de précédent de surcroît. Mais notre impression, c'est qu'il est temps, après des décennies de campagne où il y a énormément de déni dans la réponse israélienne au sens des autorités, encore une fois, il y a également une utilisation qui peut se comprendre mais qui ne peut pas tout justifier de la sécurité, de l'argument sécuritaire, et des attaques répétées, effectivement, que la population israélienne et des civils ont pu subir, comme les roquettes, par exemple, du Hamas. Donc il y a cet argument sécuritaire qui revient, il y a cet argument de l'autodétermination et de la possibilité de pouvoir créer un État juif, la seule démocratie des styles de surcroît dans la région. Donc tous ces arguments-là, on peut les entendre, mais on peut aussi, on doit, en tout cas nous pensons que c'est notre responsabilité, de leur opposer toutes ces violations du droit international qui sont depuis trop longtemps commises en toute impunité. Et ça, c'est un autre mot-clé qui a été au cœur de notre stratégie, c'est de s'attaquer à la racine même de l'impunité, qui est de nier le fait qu'il existe bel et bien un système de domination, que même en Israël, il est impossible de démanteler, puisque même si, effectivement, il y a des personnes qui peuvent voter et se faire élire, 19% si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, ça ne pourra jamais changer ce système. Il n'y a pas d'effet de levier possible. Et nous pensons que c'est l'une des causes, sans pour autant justifier jamais la violence, c'est l'une des causes qui fait qu'il y a ce cercle vicieux éternel pour l'instant, et nous espérons le briser, de violence, de vengeance, de haine aussi. Parce que l'impunité, l'absence d'accès à la justice et l'absence d'accès à la reconnaissance qu'un système insupportable et illégal au regard du droit international est institué et maintenu, avec quelque part, je dirais presque le consentement, en tout cas, bon, je ne sais pas quel terme employer, je fais attention à ce que je dis. Est-ce que c'est complicité à partir du moment où des États, même alors qu'ils pourraient avoir un effet de levier, comme les États-Unis par exemple, l'Union européenne, ont bien souvent quand même été assez faibles dans leur opposition à la perpétuation des colonisations qui sont pourtant reconnues comme illégales même par l'ONU, lorsqu'il y a eu des homicides illégaux, y compris d'enfants, lorsqu'il y a eu cette grande marche du retour qui a été réprimée avec une disproportion totalement hallucinante, lorsqu'on commence à dire que tout manifestant, même pacifique, est potentiellement un terroriste parce qu'il est palestinien, tout cela a quand même beaucoup trop d'écho, et moi j'ai pu le vivre moi-même en tant que porte-parole dans certains interviews mémorables où je me suis vraiment entendu opposer des arguments sans arrêt sécuritaires et déshumanisants, il faut bien le dire, hein, vis-à-vis du peuple palestinien. Donc nous pensons à Amnesty International qu'il est vraiment temps de porter haut et fort ce concept, en sachant que c'est un risque, on ne va pas dire le contraire, c'est un courage politique de le faire, en sachant qu'il sera forcément aussi critiqué, mais nous espérons créer un dialogue, nous espérons créer un effet de choc, mais un choc productif, pour faire enfin bouger les lignes, et pour faire en sorte que, sans doute pas du jour au lendemain, nous ne sommes pas naïfs, nous pourrons quand même un petit peu plus attaquer ce système et chercher à commencer à le démanteler, ne serait-ce que la question des colonies illégales, des démolitions systématiques de maisons, des dépossessions de biens, et de ce quotidien entravé pour un développement à travers des droits économiques, sociaux et culturels qui sont aujourd'hui largement violés au quotidien pour les Palestiniens.
–
Radio Campus 106,6.
Et maintenant, je passe la parole à Jean-Paul.
Faux invité.
Non, c'est bien normal.
Je ne sais pas par quel bout le prendre, en fait, par rapport à ce qui vient d'être dit. Parce qu'il y a plusieurs angles, et en particulier ce par quoi vous avez terminé, quand vous dites on ne prend pas position sur un État, deux États. En fait, si, vous le prenez très clairement dans ce rapport, je vais essayer de le montrer, parce que dès lors que vous attachez à un tel type de crime, vous excluez tel autre. Et c'est une vraie question. Alors, je voudrais essayer d'abord de préciser le terme d'apartheid. Ça a déjà été dit, mais juste dire un mot là-dessus. Et ensuite, je voudrais procéder de manière originale, en trois temps. C'est-à-dire, d'abord, faire un constat de tout ce qui a été dit et ce que signifie ce rapport. Deuxièmement, poser une interrogation qui, à mes yeux, est importante. Et troisièmement, faire une critique de ce rapport sur des points très précis. Parce que je crois que ce n'est pas le tout d'en rester, et c'est bien ce qu'on va faire, rester à des grandes questions générales, mais il faut aller dans le détail. C'est ça qui est intéressant. Si je prends d'abord l'introduction pour la notion d'apartheid. Lorsqu'il y a eu la loi sur l'État-nation du peuple juif, parmi d'autres, moi j'ai fait une tribune dans la presse et j'ai conclu mon papier en disant « c'est donc l'apartheid ». Bon. Mais quand j'ai écrit ça, après la loi donc sur l'État-nation du peuple juif, je considérais la notion d'apartheid au sens politique du terme, c'est-à-dire un régime qui va faire de la ségrégation systématique et va installer un système de domination. Mais en aucun cas, je ne parlais d'un crime d'apartheid. Or, toute la logique du rapport, une grande partie de la logique, c'est le crime d'apartheid. Et effectivement, un crime d'apartheid, il faut rester une seconde là-dessus sans être trop long. Vous l'avez défini, il faut quoi ? Il faut qu'il y ait une intention d'installer et de maintenir un régime d'oppression et de domination. Il faut qu'il y ait des actes qui sont des actes inhumains. Et il faut qu'il y ait système. Il y a tout ça à la fois. L'intention d'installer un système qui produise des actes inhumains qui sont énumérés. Ils sont énumérés en particulier dans le vrai texte sur le sujet. C'est pas la Convention de 73, on pourra y dire un mot, parce qu'elle est très ambivalente. –
Le statut de Rome.
– C'est le statut de Rome, c'est-à-dire la Cour pénale internationale, c'est-à-dire une cour qui a été créée en 98 et qui est entrée en vigueur en 2002. Et dans la, et un mot juste là-dessus, dans les compétences de la CPI, il y a quatre crimes qui sont de sa compétence. J'en écarte un parce que c'est autre chose, c'est le crime d'agression. Ça, c'est lié aux États. Mais si on s'en tient au cœur, c'est trois crimes. Le crime de génocide, le crime de guerre et le crime d'humanité. Alors le crime de génocide, on n'a pas à en discuter ici. Il en reste deux, le crime de guerre et le crime d'humanité. Et parmi les crimes d'humanité, il faut bien comprendre ça, vous avez une énonciation de ce qu'est un crime d'humanité. Contre l'humanité, c'est une attaque généralisée contre une population et qui implique à un moment donné, qui est une série d'actes, et on revient aux actes inhumains. Et parmi les différents crimes possibles dans le cadre du crime d'humanité, il y a le crime d'apartheid. Il y a le crime d'apartheid. Donc c'est un des crimes
contre l'humanité.
Contre l'humanité. Voilà l'idée. Un mot encore, parce que ça c'est important pour la suite. Quand on parle de crimes de guerre, c'est relativement simple, entre guillemets, bien entendu. C'est-à-dire que ce sont des violations, des infractions graves au droit international humanitaire, et en particulier, pour être très concret, à la Convention de Genève. Quand il y a une infraction grave à la Convention de Genève, c'est un crime de guerre. Les crimes contre l'humanité, ça peut être dans un conflit, bien sûr, mais ça peut être très largement ailleurs que dans un conflit. Et la distinction est importante. Crime de guerre nous renvoie forcément à l'international. Le crime contre l'humanité peut inclure un conflit, mais aussi être en dehors. Et ça, cette distinction est importante pour ce que je vais essayer d'expliquer après. Donc voilà, donc vous voyez, si on est déjà dans le détail, quand moi je dis à la suite d'une tribune, c'est une politique d'apartheid, pour moi c'est un régime politique, globalement. Voilà. Mais ensuite, le crime d'apartheid, c'est extrêmement précis. Et si on veut parler de crime d'apartheid, il faut effectivement qu'il y ait les différents éléments constitutifs du crime. Et après, se pose la question de savoir qui va décider. Et c'est pas les avocats, c'est pas Amnesty, c'est en dernière instance un juge.
C'est
un juge qui va dire au droit. Et donc, quelle est
la
Cour compétente ? À ce jour, il y en a deux. Il y a la Cour pénale internationale et il y a ce qu'on va évoquer tout à l'heure, les compétences universelles. Bon, voilà pour l'introduction. Je pense que je suis clair. Maintenant, je reprends mes trois points. C'est sur le constat. Alors sur le constat, étant entendu que je me situe pour le moment par rapport à ce qui a été dit dans Amnesty, c'est-à-dire le crime d'apartheid. Donc constat, qu'est-ce que dit le rapport? On ne va pas le répéter, vous l'avez très bien rappelé. Le crime d'apartheid, il est global. C'est une démarche, vous l'avez dit quelque part, holistique. C'est un tout. Et c'est ça que je constate.
C'est le c'est système dit. Qui est global, hein,
oui,
pas le crime.
Hein. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ça veut dire que il y a, est-ce qu'il y a un crime d'apartheid dans les territoires palestiniens occupés? Et ma réponse est évidemment, il n'y a pas de question là-dessus. Il y a un crime d'apartheid qui est énuméré de mille façons, par les arrestations arbitraires, les assassinats, entre parenthèses, le rapport, à ma grande surprise, ne parle pas des assassinats ciblés, il parle des assassinats illégaux, mais pas ciblés. Or, les assassinats ciblés, c'est aussi très particulier. On vise les à forme de responsables, on a tué, que ce soit des responsables du Fatah ou bien sûr du Hamas, de manière...
Ou des journalistes.
Ou des journalistes, mais là, c'est... Oui, c'est ça, mais là, c'était dans une vision politique. Bon, voilà, assassinats ciblés, on n'en parle pas. Donc, l'impossibilité d'avoir un déplacement, la fragmentation du territoire, enfin bref, on n'a que l'embarras du choix pour dire qu'il y a crime d'apartheid dans les territoires palestiniens occupés. Est-ce qu'on va, en ce qui concerne Israël, avoir le même type de raisonnement? Alors moi, je pense que c'est un débat sans fin et sans fond. Je pense qu'on ne peut pas parler de crime d'apartheid s'agissant du système israélien au sens de l'État souverain. C'est un régime d'apartheid au sens politique du terme, il y a ségrégation incontestablement, et puis surtout, la loi de juillet 2018 est extrêmement claire là-dessus. Elle affirme ça, hein, c'est très clair. La souveraineté n'appartient qu'au peuple juif et non pas au peuple palestinien. Bon, mais est-ce qu'on peut parler de crime d'apartheid et ensuite d'actes inhumains? Je ne le crois pas, je ne vais pas développer ça, je laisse ça au débat, mais je ne pense pas qu'on puisse dire ça. On pourrait le dire, par exemple, peut-être pour la période entre 1948 et 1966, c'est-à-dire l'époque d'un régime militaire, où là, pour le coup, on avait tous les éléments qu'on pourrait retrouver, y compris des massacres comme celui de Kfar Kassem, vous savez, où par exemple des paysans qui reviennent juste après le couvre-feu, après 17 heures, les soldats les voient revenir des champs, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un couvre-feu, ils sont assassinés. Hein, donc on pourrait tout à fait, dans cette périodisation-là, dire « oui, là, il y a eu crime d'apartheid ». Puis le troisième niveau, alors là, je ne comprends pas, ou alors j'ai mal lu ce qui est possible, hein, les réfugiés. La question des réfugiés, c'est quand ça s'est passé en 1948 avec la Nakba, je dirais presque, c'est l'inverse de l'apartheid. On ne voulait pas dominer, on voulait chasser. On voulait chasser le peuple. Manque de chance, si j'ose dire, et ça a été beaucoup discuté à cette époque, il y en a un certain nombre qui sont restés, de Palestiniens sur le territoire qui devient Israël, c'est-à-dire 150 000 Palestiniens. Et alors là, on revient au régime dont je parlais tout à l'heure, 1948-1966, pour ces 150 000 Palestiniens. Et il y a eu là des batailles pour la légalité. Des gens comme Habibi, comme bien d'autres, ont fait un boulot formidable. Mais parler des réfugiés, en essayant d'inclure ça dans la question de l'apartheid, ça me paraît ne pas tenir la route une seconde. Donc voilà, c'est un constat. Alors après, on peut débattre, mais moi, je distinguerai très clairement les trois situations. Et en particulier, je répète que sur les territoires palestiniens occupés, il y a un crime d'apartheid et qu'on peut effectivement le dénoncer et qu'il faut saisir la CPI, etc. Pas pour le reste. En plus, pour le reste, c'est-à-dire pour Israël, il n'y a pas de cour compétente. On va y revenir aussi sur un point très précis, mais il n'y a pas de cour compétente parce que la CPI ne peut pas intervenir puisque Israël n'est pas membre signataire du traité de Rome, du statut de Rome, donc ne peut pas.
Sauf si le Conseil.
Il y a deux exceptions. Non, une exception, le Conseil de sécurité. Donc évidemment, on peut dire le Conseil de sécurité va saisir la CPI parce qu'il y a apartheid en Israël. On peut toujours dire ça, bien entendu, en termes juridiques, c'est dedans.
Et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a déclenché il y a un an une enquête qui inclut spécifiquement le territoire israélien.
Oui, mais ça, c'est pas une saisine de la CPI d'après le statut.
Non, non.
D'après le statut de Rome.
Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Voilà.
Essayons de. Tu vois, qui peut saisir? Le Conseil de sécurité peut effectivement le faire. Voilà. Sinon, c'est un État parti. Et donc, Israël n'est pas un État parti, je vais y revenir. Et puis, bien entendu, ça peut être le procureur dans certaines situations qui s'auto-saisit en quelque sorte, qui ouvre une enquête. Mais là encore, il faut que l'État soit parti, parce que sinon, c'est vraiment très compliqué. Bon, voilà. Donc, on est dans ce schéma. Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, je distinguerais les trois niveaux. Évidemment, pour les réfugiés, là, ça me paraît tout à fait évident. Mais après, on peut débattre pendant des heures sur si on inclut ou pas. Je signale...
C'est compliqué, mais ça n'est pas impossible, parce que vous parliez aussi tout à l'heure d'autres situations où on peut très bien, malgré le fait que l'État n'a pas ratifié ni même signé le statut de Rome, ça ne les sort pas complètement du champ de la compétence de la CPI, quand même.
Si, bien sûr que si. Bon, enfin, on va y revenir. Je vais revenir sur des points très précis, vous allez voir.
On va laisser finir.
Non, mais voilà. Donc, mon constat, c'était mon premier point, c'est de dire, bien sûr, pour les territoires palestiniens occupés, ça va de soi. Pour Israël, je ne le crois pas, c'est un débat. On finit pas. Et sur les réfugiés, certainement pas. Il faut penser au problème autrement. Et c'est là, et c'est une première liaison avec mon deuxième point. Mon premier point, c'était le constat. Mon interrogation, elle est là. C'est que le risque de penser une question aussi complexe avec un seul concept, c'est qu'un, on risque de s'enfermer dans le concept d'apartheid, et deux, on exclut certaines dimensions fondamentales du conflit. Et s'agissant de cette affaire, c'est mon deuxième point, c'est une interrogation, et une interrogation à laquelle j'ai quand même des éléments de réponse, mais l'interrogation, mais je demande à Amnesty, mais pourquoi diable avez-vous mis de côté, marginalisé la dimension internationale du conflit israélo-palestinien, internationale dans les deux sens, c'est-à-dire c'est un conflit au départ international, et c'est un conflit entre nations, entre nationalisme. Et je reprends ces deux idées. La première idée, c'est que dans l'aspect droit international, pourquoi à aucun moment on ne réintroduit, même si on estime que c'est dépassé, des principes aussi fondamentaux que, par exemple, celui de la 242 qu'on retrouve dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité, c'est-à-dire le principe de non-admissibilité de l'acquisition de territoires par la force. C'est essentiel, car au fond, l'apartheid des territoires occupés, car je parlais d'apartheid, eh bien, c'est lié tout de même à une guerre de 67 et à une occupation militaire. Donc on peut parfaitement, et à juste titre, parler d'apartheid dans cette occupation qui n'en finit plus, qui en a pour des décennies et peut-être encore pour très longtemps. Il n'empêche que le principe même de la non-admissibilité de l'acquisition de territoires par la force demeure pertinent. Pourquoi ne pas le dire ? Sinon, on s'enferme dans la conception holistique de notion d'apartheid. Si je reste encore sur ce point, il y a un deuxième élément, c'est que, et c'est là où on revient à mes distinctions de tout à l'heure, crime contre l'humanité, l'apartheid est un crime contre l'humanité. OK, sur les territoires palestiniens. Mais il y a aussi des crimes de guerre. Et un des crimes de guerre les plus importants et les plus faciles, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure brièvement, en matière de preuves, parce qu'en dernière instance, c'est une cour, en l'occurrence ici, la CPI, évidemment, eh bien, constater qu'il y a infraction grave à la 4e convention, ou plus précisément, infraction grave à l'article 49 de la 4e convention de Genève, qui interdit les transferts de population, et par conséquent, qui fait que la colonisation est un crime de guerre. Qu'est-ce qu'ont fait les Palestiniens quand ils sont allés devant la CPI ? Ils ont parlé de Gaza, bien entendu, crime de guerre, mais ils ont parlé aussi, bien sûr, de la colonisation. Et on n'en parle pas. On ne parle pas des crimes de guerre. Et on ne parle pas des crimes de guerre parce que, précisément, on s'est enfermé dans cette conception, l'apartheid, crime contre l'humanité. Très bien, mais il n'y a pas que ça. Et c'est beaucoup plus facile de démontrer les crimes de guerre. On a cette, la deuxième chose en termes international, ce qui me choque, mais ça me choque vraiment, c'est qu'on ne parle que des Palestiniens en tant que détenteurs de droits individuels. Ce qui est juste, bien sûr qu'il faut se battre pour qu'ils aient des droits individuels. Mais on ne parle pas du tout du fait que c'est un peuple qui est une nation. On laisse complètement de côté la dimension nationale. La dimension nationale. On ne voit plus et je l'ai lu attentivement, il y a quand même 290 pages. Voilà. Et on ne parle pas de la dimension nationale. Alors qu'on parle, une fois encore, du crime d'apartheid, moi je veux bien, mais qu'on parle aussi des crimes de guerre. Et puis enfin... pour faire très rapide, le troisième point, c'est donc la critique. Car jusqu'à maintenant, je ne faisais pas de critique.
Non.
Alors, la critique,
pas du tout.
La critique, c'est sur les recommandations. Alors, je les ai ici, les recommandations. Vous avez 7-8 pages. Il y a une centaine de recommandations. Et franchement, il y a tout. Et finalement, il n'y a rien, quoi. C'est, on demande la fin de l'apartheid. Très bien. On demande l'égalité des droits. On demande d'arrêter des violations de droits. On demande de faire autrement le maintien de l'ordre. On demande, alors là, celle-là, elle est très bien, mais elle est très juste, hein. Il faut, on demande à Israël d'adhérer au statut de Rome, ce qui est tout à fait légitime. On demande encore à Israël de changer sa législation, d'amender la loi de 52, de refaire, de permettre le regroupement familial, de revoir la question du service militaire pour les Israéliens, parce que quand ils font leur service militaire, ils peuvent accéder à certains emplois. Ceux qui ne font pas le service militaire, eux, n'ont pas cette possibilité.
Et les Arabes ne le font pas.
Voilà. Reconnaître les villages du Negev, etc. Bon, on a toute une série comme ça, une centaine. Et une centaine qui vont, en fait, sont de catalogue sur tout ce qu'il faudrait faire et qui va, évidemment, très logiquement, tout le monde sera d'accord avec ça, arrêter les colonies, etc. Arrêter le système des cartes de résidence. Bon, j'ai envie de dire, ok, très bien, bravo, mais so what ? Quelle est l'effectivité de tout ça ? Aucune priorité de donner à tel ou tel point, et on ne dit pas non plus comment on va les mettre en œuvre. Et c'est mon deuxième aspect. C'est sur les... Une fois que j'ai dit ça, donc ces recommandations, la première critique, c'est qu'il y en a... Il y a 100, une centaine de recommandations, sans effectivité. Et puis quand on en vient à l'effectivité, ou des tentatives d'effectivité, moi, ça me pose question, vraiment. Alors, j'en ai une, par exemple, que je trouve très intéressante, et c'est deux lignes, finalement, deux lignes. C'est... Elle s'adresse, parce qu'il y a des recommandations, elle s'adresse à Israël, elle s'adresse à la communauté internationale, elle s'adresse à la communauté internationale, elle s'adresse aussi aux procureurs de la CPI, et elle demande, je lis hein, le texte en anglais, le procureur devrait ouvrir une enquête sur le crime d'apartheid.
Il devrait inclure dans son enquête ouverte en mars 2021 voilà. Le
donc,
crime d'apartheid.
Très bien. Et donc, et là, on est donc dans cette discussion. Et d'ailleurs, comme c'est assez logique, il y a un peu plus tôt l'idée qu'on demande à Israël d'adhérer à la Cour pénale internationale. Bon. Et puis on dit un mot, juste un mot, un peu plus loin, sur la compétence universelle. Mais c'est tout. Alors si je prends les deux points, sur la CPI, il y a effectivement une enquête qui est conduite depuis 2015. L'idée, c'est que le procureur ouvre une enquête ou va compléter son enquête, mais là encore, on ne parle pas de crimes de guerre, on est focalisé sur les questions de compétences qui sont liées aux crimes contre l'humanité, c'est-à-dire qu'on reste toujours sur la question des droits individuels. On aurait très bien pu dire aussi, à plusieurs reprises, ça n'est pas le cas, qu'un des moyens aussi qu'on peut demander à la communauté internationale, c'est de faire en sorte qu'on évacue les territoires, c'est-à-dire qu'on revienne à la dimension internationale. Puis un dernier mot. Vraiment, deux secondes, on y reviendra. La compétence universelle, elle est évoquée, mais absolument pas analysée. Or, en France, le débat est en train de pointer, c'est très intéressant, parce qu'on a un principe de compétence universelle qui est en fait entièrement verrouillé, et il y a un vrai débat là-dessus, on a fait une étude à l'IREMO là-dessus, c'est-à-dire qu'un crime contre l'humanité ou un crime de guerre pourrait relever des compétences universelles, sauf que c'est verrouillé. Alors je prends juste un exemple, parce que sinon tu vas me dire que je parle trop, mais un exemple qui est Netanyahou passe à Paris. Il faut que le gouvernement donne ordre au parquet de lancer la poursuite, ce qui est déjà un premier verrou sans doute. C'est le parquet qui ouvre les poursuites, c'est pas les individus, c'est le parquet. Donc le gouvernement. Et deuxièmement, Netanyahou, donc, admettons qu'il soit arrêté quand même, enfin que des poursuites soient engagées contre Netanyahou pour un crime de guerre. Et à ce moment-là, il va se retrouver devant un juge, et le juge va constater tout de suite que, bah oui, mais il n'est pas résident, donc c'est pas possible de le conserver, et il faudrait qu'il soit. Alors, si Netanyahou est sympa, il va s'installer, il va prendre une résidence, il va rester. Sauf qu'il y aura un troisième point, c'est que si le crime en question n'est pas dans le droit pénal israélien, on ne pourra pas le poursuivre, ce qu'on appelle la double incrimination. Bref, tout ça me fait dire que je regrette vraiment que dans les recommandations, il y ait si peu de choses. Structuré, qu'on écarte tout ce qui est droit de la guerre, et puis qu'on soit si peu dans l'effectivité.
وأعد أضلاعي اتركوني ضفاف النيل مبتعدا وأبحث عن حدود أصابعي فأرى العواصم كلها زبدا.
Radio Campus 106,6.
Pour moi, il y a plusieurs débats et peut-être il faut les distinguer. Oui. Parce que on peut discuter du rapport d'Amnesty, comme Jean-Paul l'a fait avec des critiques précises sur, par exemple, les recommandations. On peut aussi discuter de la notion d'apartheid et de crime d'apartheid. C'est pas la même. C'est la notion d'apartheid et la notion de crime d'apartheid. C'est déjà deux choses. On est à trois objets différents du débat. D'accord. Je pense personnellement que on aurait intérêt pour la suite, et puis dans le débat plus généralement qui ne se terminera pas ce soir, je pense en tout cas, à bien distinguer les choses. Et je voudrais me permettre, peut-être pour aussi qu'on soit dans la coolitude,
ah bah tout va comme, bien. Dirait, ouais,
comme dirait...
Non, je parle vite que ça va.
Non, voilà.
Je pense que le regard de l'histoire est quand même un regard intéressant. C'est-à-dire que si on ne remonte pas au projet sioniste lui-même, je ne vais pas faire un cours là-dessus, c'est pas l'heure, mais quand même il faut remonter au départ à ça, c'est-à-dire que les gens se trompent en général, on en a parlé samedi, le projet de Herzl n'était pas de faire seulement un État juif, c'était de faire un État juif à majorité juive, c'est-à-dire un lieu où, sur Terre, les Juifs soient en état de s'autodéterminer sans que les antisémites, que sont tous les non-juifs, ou quasiment dans le projet tel que Herzl le présente, puisse interférer. À partir de là, on comprend que la notion d'apartheid, non pas le crime d'apartheid, la notion d'apartheid, elle est intrinsèque au projet sioniste. La preuve, c'est la déclaration Balfour, c'est que des 7, hein, excusez-moi, il n'y a que des 7. 1917, 2 novembre, déclaration Balfour, on parle des droits nationaux des Juifs, à qui on propose un foyer national juif, et on parle du droit des minorités non-juives.
Civiles et religieuses.
C'est assez comique quand on y pense, puisqu'à l'époque, c'est 95% de la population qui est décrite comme minorités non-juives, qui ont des droits civils et religieux, pas nationaux, et les Juifs ont droit à... Donc l'apartheid est déjà dans la déclaration Balfour. Deuxième exemple. Quand, après plusieurs périodes de heurts, notamment ceux de 36, qui démarre 3 ans, comme on sait, de grandes révoltes palestiniennes, on a le plan PIL. C'est en fait un premier plan de partage où il y a un petit État juif, un État arabe plus grand. Qu'est-ce qu'il y a pour répondre aux soucis des sionistes? Il y a le droit de transférer les Arabes qui sont dans l'État juif ailleurs. C'est-à-dire que ce qui s'est fait en 1948 est déjà écrit en 1937 dans le plan PIL. Là, c'est l'apartheid avec expulsion. Ce qui pose un problème dans la définition.
En se référant à l'échange de population entre les Grecs et les Juifs qui avait été lu en 1923.
Voilà. Mais donc, on a un double transfert, il faut être honnête, mais sauf que le transfert des Juifs qui étaient dans l'État arabe, c'est 1500 personnes, et le transfert des Arabes qui se trouvent dans l'État juif, c'est environ 200 000, un peu moins. Troisième étape, puisque ça n'a pas marché, c'est le plan de partage de l'ONU. Et là, je me souviens très bien, je pourrais presque le réciter, de ce qu'écrit Ben-Gourion lui-même. Il dit « ça ne peut pas marcher, puisque dans l'État arabe prévu par l'ONU, tout va bien, il y a une écrasante majorité palestinienne, arabe, mais dans l'État juif, c'est presque 50-50. » Et Ben-Gourion dit « ça ne peut pas marcher, c'est pas un État juif. Sous peu, dans 1 an, dans 10 ans, on n'aura plus la majorité, ce ne sera plus... » Pourquoi je rappelle tout ça? Après, il y a la Nakba, etc. C'est pour dire que dans le... Si je peux me permettre cette expression un peu osée, dans la génétique du projet sioniste, il y a l'inégalité de droit entre les deux populations. Et ce qui se passe en 1948, et là, il ne s'agit pas de territoire occupé autre que les frontières de l'Israël agrandies par la guerre d'un tiers, quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la Galilée du côté arabe, etc., etc. Gaza est réduit. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces frontières? On installe un système d'apartheid. C'est-à-dire qu'on a expulsé les 4/5 des Palestiniens, donc il y a une majorité juive, mais la minorité
est immédiatement cadenassé par les lois sur les absents. Donc ça permet de mettre la main sur l'essentiel des terres. On va passer en quelques décennies de 7% de terres juives, 6,5%, je ne sais pas d'où sort le chiffre de la vidéo, à ma connaissance c'est 7% au moment du partage, à 93% aujourd'hui. On parle des terres privées, hein, on ne parle pas des terres domaniales. Donc on a une inversion totale de la possession de la terre, mais on a aussi, on l'oublie, le régime militaire. C'est-à-dire que les juifs n'ont pas le même statut civil que les palestiniens dans l'État d'Israël. On ne parle pas des territoires occupés, encore une fois, là, on parle d'Israël même. Pourquoi je rappelle ça et je m'arrête, c'était pas pour simplement faire un rappel historique, c'est pour dire que au-delà du débat sur apartheid, crime d'apartheid, etc., et recommandations, je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Paul, il y a un problème de hiérarchisation des choses, certainement. C'est d'ailleurs pas dans les mêmes termes dans Human Rights Watch.
Pas du tout.
Pas du tout.
Je suis...
Mais au-delà de ces débats-là, qui sont des débats importants, hein, je ne le dis pas, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que le principe même de l'apartheid, c'est-à-dire de l'inégalité de statut des deux populations qui pourtant se partagent de fait ce territoire, il est inscrit dès que Herzl pense son projet comme il le pense. Il est inscrit dans Balfour en 1917, il est inscrit dans le plan Pile en 1937, il est inscrit dans ce que font les dirigeants sionistes et ensuite israéliens du plan de partage de 1947. C'est-à-dire on est quand même dans une continuité historique. C'est ça que je voulais dire, ça ne tranche pas vos débats, mais quand même ça donne un surplomb, disons, historique à la question.
Et ça appuie la notion d'intention, pour le coup.
Alors, Cécile, je vous passe la parole.
C'est pas très gentil, Dominique, parce que tu as testé ma mémoire encore plus. J'étais déjà en train de me dire j'aurais dû prendre prendre quelques notes de tous les arguments. Donc j'aurais peut-être besoin de petits rappels. Ça sera un dialogue avec vous aussi, je l'espère, comme ça. Alors, par quoi commencer? Je vais commencer par, effectivement, cette distinction entre le système et le crime. Effectivement, là, je le répète, c'est un choix que nous avons fait. Et d'ailleurs, on voit bien que le système fait moins débat que la question du crime. Et j'ai pourtant expliqué tout à l'heure que, justement, l'un des moteurs de ce rapport, c'est d'essayer, modestement, humblement, de commencer un peu plus à lutter contre l'impunité. Donc forcément qu'on va faire appel à un concept qui pourrait être opératoire devant une cour pénale internationale ou devant d'autres États, ce qui n'a pas que la France. Là, on a un peu, et à juste titre, parce que c'est l'une de nos campagnes d'ailleurs en France, d'appeler à faire sauter ces verrous législatifs qui empêchent le plein exercice de la compétence universelle. Effectivement, c'est une aberration que la patrie des droits de l'homme ne permette pas de juger des criminels de guerre ou contre l'humanité. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Il y a bien d'autres pays qui, eux, ont une, heureusement, une législation qui est un petit peu moins absurde, qui permet vraiment une compétence universelle. Donc nous appelons ces États-là à le faire.
Même la petite Belgique.
Donc là, je veux dire qu'effectivement, je ne peux pas nier qu'il y a une distinction et que volontairement, ce rapport parle des deux. C'est un choix, effectivement, de faire d'abord la démonstration qu'il s'agit bien d'un système. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec ma métaphore des points reliés grâce à une ligne qui est bien ce système voulu, créé et maintenu d'apartheid. Mais ensuite, si on veut pouvoir traîner en justice des responsables et surtout faire prendre conscience de la... Il y a aussi un caractère symbolique, je dirais, là-dedans, que c'est un crime. C'est pas seulement un système qu'on cherche à justifier par plein de raisons, que historiquement il faut un peuple juif et que effectivement il y a des menaces, etc., sur leur sécurité. Bon, tout ce qu'on sait, tout le débat qui est sans fin depuis des décennies, il ne pourrait pas s'arrêter. Et nous, ce que nous voulons, c'est effectivement une prise de conscience du fait que trop d'États et la communauté internationale, par ailleurs, sont deux niveaux différents, en bilatéral et en multilatéral, il y a effectivement un problème de ne pas, comment dire en anglais, address, de ne pas s'attaquer à ce problème en tant que crime. Donc ça, c'est un choix. Par ailleurs, votre approche, moi, ça me fait vraiment penser souvent à ce que je reproche sur Twitter, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais le whataboutism. C'est-à-dire qu'on fait un rapport qui focalise sur un concept, on dit « mais vous n'avez pas parlé de celui-là ». Et là, j'ai envie de vous répondre simplement qu'il y a des dizaines de rapports sur Israël-Palestine qui ont tout à fait porté sur ces colonisations qui se perpétuent. Nous avons même fait un rapport sur des entreprises comme Airbnb, Expedia, je ne sais plus laquelle est la troisième, enfin, peu importe, on ne fera pas de pub pour eux en plus, qui perpétuent justement le développement développement de ces colonies, en faisant du business là-dessus finalement, alors que c'est interdit par le droit international, que justement, c'est pas qu'on appelait au boycott, mais on appelait les États à légiférer pour que ces entreprises cessent de faire un business sur quelque chose qui est illégal. Donc on a parfaitement conscience de la gravité de cette question de la colonisation qui perdure sans aucun complexe, à tel point qu'elle est inscrite dans la loi, comme tu le rappelais, ça fait partie des choses, comment dirais-je, intrinsèque, quoi, finalement, à cette nation juive qui se conçoit comme, finalement, ayant le devoir de poursuivre la colonisation. Donc ça, on ne peut pas dire qu'on est surpris. C'est annoncé, c'est très clair. Donc, effectivement, on ne peut pas faire tout dans le même rapport. Il fait déjà, vous le rappeliez, presque 300 pages. On a voulu plutôt, en gérer, bétonner l'analyse dans le détail de toutes ces pratiques, toutes ces lois. Et ça, ça n'avait pas été fait à ce point dans le détail, notamment... C'est d'ailleurs un peu difficile à lire, il faut bien le dire, hein, toutes ces questions d'octroi, de subventions publiques, de possibilité d'avoir le même niveau d'éducation, de la question des permis de construire qui sont donnés qu'à un pourcentage infime, ridiculement infime, aux Palestiniens par rapport aux Israéliens dans les TPO, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a été effectivement décidé, de faire un rapport qui aurait ce focus-là. Donc on ne peut pas reprocher à un rapport de ne pas tout dire, notamment de ne pas parler des crimes de guerre, parce que là, la nouveauté et la volonté de faire bouger une ligne, c'était bien sur ça. C'est-à-dire, c'est pas qu'un système, c'est aussi un crime, et il faut que la communauté internationale l'admette, et qu'elle envoie des messages, même si c'est pas encore l'étape où, effectivement, on voit déjà Netanyahou, aujourd'hui, le successeur, devant la CPI. On n'est pas en train d'être des doux rêveurs, c'est-à-dire ça va arriver demain, évidemment. Mais il n'en reste pas moins que c'était important, je pense, de mettre les deux dans ce rapport, le système et le crime, et de chercher effectivement à ne pas vouloir tout embrasser à la fois, parce qu'il y a effectivement bien d'autres crimes qui sont à la racine. Par exemple, on est en train de travailler aussi au développement de lignes de conduite, enfin ce qu'on appelle « policy » en anglais, sur l'occupation militaire en général. On a la même démarche qu'avec l'apartheid. On commence par faire un positionnement amnestien, si j'ose m'exprimer ainsi, sur le concept d'apartheid. Après, on l'applique à différentes situations, on voit s'il est opératoire ou pas. Pour l'occupation, c'est pareil. Beaucoup nous ont dit « Mais pourquoi vous n'avez pas parlé d'abord de l'occupation ?» Et ça, je l'entends, cet argument-là. Moi, je l'aurais souhaité à titre personnel. Ça ne s'est pas fait ainsi. On a commencé par le concept d'apartheid. Mais ça ne veut pas dire qu'on ferme les yeux sur toutes les violations qui ont aussi cette cause racine, sans doute. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Parce qu'il y avait tellement d'arguments au fur et à mesure, c'est difficile de tout se rappeler.
Je vais vous envoyer votre argument.
Les recommandations. Pour les recommandations, je finirai là-dessus, parce que sinon, il faut quand même qu'on laisse la parole à la salle aussi. Pour les recommandations, j'en conviens, il y a une liste qui, moi-même, m'a fait un peu sourire, parce qu'elle est particulièrement longue. Il faut dire que, d'une part, il y a des cibles extrêmement diverses, parce qu'on sait à quel point la paralysie de la communauté internationale est manifeste sur ce sujet d'Israël en particulier. Il y a vraiment une gêne, un malaise à... critiquer, parce que immédiatement on a ces tombereaux d'insultes et toujours les mêmes qui font très mal, c'est-à-dire l'antisémitisme, de nier à un peuple qui a tant souffert le droit d'exister. Bon, donc ce sont des sujets dont on sait très bien que, pour le coup, historiquement et encore aujourd'hui, ça va être très compliqué de faire bouger la communauté internationale. Donc il y a des recommandations qui ont l'air certes naïves, et moi je ne trouve pas que ce soit si naïf de dire déjà qu'il faut cesser de ne pas simplement en parler, quoi. Parce que même ça, c'est quand même déjà une étape à franchir. On a vu par exemple en France que Jean-Yves Le Drian a dit une fois « Attention, ça pourrait devenir quand même de l'apartheid ». C'était en 2018, si je me souviens bien, ou 2019, je ne sais plus. Bon, il a dû se faire taper sur les doigts après, parce qu'il n'a plus jamais rien dit de la sorte. Quand le rapport est sorti, on a eu aussi des critiques, y compris de certains politiciens, dont une, je ne vais pas en faire sa pub, qui est allée jusqu'à dire qu'on devrait sans doute démanteler toutes les ONG qui osent en parler, y compris nous, donc allons-y. Donc, bienvenue dans le monde de la liberté d'expression en France aujourd'hui. Donc, il y a eu effectivement énormément d'attaques qui ont paralysé en fait la communauté internationale. Et au niveau bilatéral, là où je ne suis pas d'accord avec vous non plus, c'est que je pense que si chaque État, à sa juste mesure, avec l'effet de levier qui est le sien, qui n'est pas le même pour tous, évidemment, certains États en ont plus que d'autres, eh bien, on peut imaginer quand même qu'il n'y aurait pas cette arrogance quand même extrême de l'État israélien, je répète, et pas forcément le peuple. Je fais encore cette distinction très importante, parce que c'est ce sentiment d'impunité, de protection permanente de la communauté internationale. Il faut essayer de faire bouger un peu. Donc on a mis toute une liste en disant bah, « si ça bouge pas là, ça bougera un petit peu là ». Et on essaie de prendre par différents bouts cette espèce de bloc, c'est vraiment un bloc, je veux dire, le système d'apartheid, en se disant que peut-être certaines lignes vont commencer un peu à bouger et qu'il y aura après un effet, bon, si ce n'est un effet domino, en tout cas, quelque chose qui aura un petit peu été ébranlé. Voilà, c'est, enfin, c'est quelques
Jean-Paul,
réponses.
Mais ouais, il y a, j'en aurais bien mais après,
ouais, ouais, ouais. Non, ouais. Il y a deux choses. Qu'on développe l'idée qu'il y a un crime d'apartheid et qu'il y ait un système d'apartheid, ce qui n'est pas la même chose. Moi, je l'entends. Et c'est d'ailleurs une position un peu singulière parce que je me trouve dans une posture un peu amusante par rapport à mes positions habituelles. Mais qu'on ne prenne pas, dans un texte de 300 pages, qu'on ne prenne pas, je sais pas, une page de préambule pour rappeler ce que vous avez dit, c'est-à-dire que s'il y a apartheid dans les territoires occupés, c'est précisément parce qu'ils sont occupés. Même cette formule-là, qui renvoie au droit international, n'est pas explicite.
Ça y est. Non, mais en vous écoutant, je me rappelle ce que j'ai oublié, excusez-moi si je peux vous interrompre, c'est l'histoire des réfugiés. Parce que alors ça passe pas pour moi. C'est quand même grave de dire c'est du n'importe quoi, de rappeler le droit international, que c'est quand même le seul État au monde qui, avec une telle arrogance, dit « mais non, vous ne pouvez pas rentrer chez vous ». Alors qu'ils ont été expulsés de force et que c'est interdit par le droit international. Donc, si on veut dans ce rapport rappeler que oui, il y a un peuple palestinien, même s'il a été tellement fragmenté, tellement divisé, que parfois aujourd'hui ça paraît irréconciliable, c'est pour ça que c'est tellement compliqué, y compris d'un point de vue politique que je n'aborderai pas, mais on peut quand même se dire que l'apartheid, il est important de le concevoir contre un peuple. Et le peuple, il est effectivement disséminé à travers la planète. Et on sait pourquoi, hein, c'est pas leur choix. Et donc c'est important. Enfin, si on ne l'avait pas dit, j'imagine quand même la réaction de tous les réfugiés palestiniens, qui sont quand même 6 millions, si je me souviens bien. Donc non, là, je pense que ce n'était pas possible de ne pas le dire. Enfin, il y a quand même, à un moment donné, bon. l'obligation morale,
mais, non, attendez,
même, d'inclure tout
non,
le peuple
moi,
palestinien.
Je voudrais qu'on... Ouais. qu'on a dit qu'on parlait dans ouais. la coulitude. C'est évident qu'il faut s'occuper des réfugiés palestiniens. Ouais. Ça fait 40 ans que...
Au moins obtenir réparation.
Non, mais je veux dire, c'est évident. Mais par exemple, quand vous parlez des réfugiés, il n'y a même pas la référence dans les recommandations à un truc qui s'appelle la résolution 194. Ce que vous dites là, c'est ce que dit la résolution 194. On est tous d'accord là-dessus.
On n'est pas tous d'accord là-dessus,
non.
Malheureusement.
Non, mais nous, ici, c'est une évidence. Je veux dire, c'est une évidence. Ce que je conteste, c'est qu'on met ça sous le paquet apartheid. Mais sur les réfugiés... l'idée de partir là-dessus nous conduit à rester, sans que vous le vouliez, dans le cadre d'un seul État. Quelque part, c'est dans un seul État. C'est réintroduire la notion de crime de guerre, la notion de fin de l'occupation, qui n'apparaît pas dans vos recommandations, ça veut dire que la question des réfugiés sera posée, bien entendu. Elle sera posée. Et il faudra faire revenir les réfugiés. Et si on veut être un peu réaliste, les Palestiniens eux-mêmes savent qu'ils vont parvenir en Israël. Et donc, ils vont revenir dans un État...
Je comprends mal le rapport avec un État ou deux États. Honnêtement,
je veux dire,
j'essaie de suivre, mais...
Si tu prends une...
Dans toutes les hypothèses, la question des droits au retour, qui n'est pas un retour pour les uns, mais une arrivée, se pose, parce qu'il y a une loi israélienne qui prévoit le droit de tout juif à venir en Israël, et la question de l'autre droit au retour, celui-là c'est au retour, elle est posée.
Ce qu'on attend d'un document ambitieux, comme celui-là, c'est qu'il nous donne un certain nombre de pistes précises, stratégiquement utiles et avec un peu d'effectivité. Et quand tu tombes sur les quelques pages de recommandations, je suis désolé, on ne les a pas. L'argumentaire, moi je continue là-dessus, l'argumentaire, ce n'est pas pour mettre en concurrence les uns les autres, mais l'argumentaire de Human Rights Watch est beaucoup plus efficace, ce qui conduit à des conclusions beaucoup plus précises et avec l'idée, en distinguant beaucoup mieux les choses. Et donc je préfère infiniment le rapport de Human Rights Watch qui est plus solide que celui-là. Parce que justement, quand on lit ça, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ou qui connaîtrait mal la question, on en est dans une situation où c'est vraiment une seule entité. Ce que je regrette profondément dans ce rapport, c'est qu'on n'est pas à tel ou tel endroit. À tel endroit, dans le texte, dans sa globalité et dans les recommandations, rappeler simplement que l'apartheid est importante, mais qu'il y a aussi des crimes de guerre et qu'on est dans un système d'occupation militaire. Ce n'est pas dit. Et par exemple, quand je regarde les demandes qui sont faites à la communauté internationale, on pourrait avoir une phrase, puisque à chaque fois, c'est trois lignes, hein, les recommandations. Ça aurait été de dire que la communauté internationale, puisque c'est beaucoup de vœux pieux aussi, eh bien, travaille à la résolution du conflit et à l'évacuation des territoires occupés. Ça va plus de quelque chose de ce genre. Mettre la fin de l'occupation comme un objectif important. Or,
mais
ça,
non, c'est pas possible, on n'a pas encore de position.
Attendez une seconde.
Non, mais j'explique juste qu'on n'a pas encore de position.
Non, non,
dessus.
Finis,
ah non, attendez, attendez. Vous pouvez pas le faire.
Laissons finir Jean-Paul et reprenons ensuite, parce qu'en plus, on a des questions qui
ah oui, d'accord, ça commence à.
D'accord,
ah
donc
oui.
je vais me taire, je vais me taire.
Non, 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 finis, finis.
Mais je veux dire que.
Bien sûr.
Qu'on ne contextualise pas, à minima, l'idée que la première des recommandations, c'est qu'il y ait évacuation des territoires et mise en œuvre du principe de non-admissibilité des territoires par la force, ça me paraît important, parce que si on retirait les militaires et si on mettait un fin de l'occupation, eh bien, une bonne partie de l'apartheid dans les territoires occupés serait remise en question. C'est ça que je veux dire, et ça n'apparaît pas. Et il y a même des phrases qui me choquent, par exemple, quand je disais tout à l'heure « international », dans les deux sens, international, ce que je viens d'évoquer ça, la Convention de Genève et tout ça, il y a aussi le fait qu'il y a une nation palestinienne et que, par exemple, je prends, il y en a plusieurs, mais pour ce qui porte sur les permis de construire, eh bien, il faudrait, nous dit le texte, que ça soit la responsabilité des communautés palestiniennes. Cette formule de communauté palestinienne me choque. Elle me choque parce que ça veut dire, voilà, ce sont des droits individuels, mais il n'y a pas l'idée de nation palestinienne. Comment ?
Non.
Oui, non, mais je veux dire.
Non.
J'aurais voulu qu'on écrive palestinienne autorité, pas autorité au sens de la paix, mais qu'il y ait un rapport à la nation et non pas aux communautés palestiniennes. C'est ça que je veux dire. Et ce mot communauté palestinienne, on le retrouve souvent. Et il est lié au fait qu'on aborde la question exclusivement avec la question des droits individuels. Donc à force de vouloir de parler de droits individuels, on en oublie un qui est fondamental, qui est le droit à l'autodétermination. Et j'aurais voulu que ce droit, là aussi, soit réaffirmé.
صحيت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا انا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني بايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني في اعلى الجبل تحت ظل اجمل ورده كل البشر مروا بحدي حلوي تشاو حلوي تشاو 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 راح كل البشر مروا بحدي يعطوني اسم اجمل ورده وهاي الورده ورده مقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 هاي الورده ورده مقاوم سقطت من اجل الحر
Radio Campus, 106,6.
D'abord sur l'État-nation, je crois que c'est une vraie question, ça, l'État-nation. Et c'est une question qui se pose en particulier au Moyen-Orient. Alors, je ne vais pas être trop long, si vous prenez l'histoire du Moyen-Orient contemporain, nous sommes dans un système impérial, un système d'empire, dans lequel il y a une multiplicité de peuples, de religions, de communautés. Pour le coup, le terme communauté, là, est juste.
Minorité, oui.
De minorité, etc. Minorité par rapport à des majorités ou l'inverse, ça dépend où on se trouve. Et donc, un des grands enjeux des années 20 qui a été complètement manqué, c'est justement le passage de l'Empire à l'État. À l'État, comme dirait notre ami, importé, qui est l'État-nation. Et le problème est très spécifique. Il est très spécifique à Israël parce que là, nous avons une histoire très particulière que tout à l'heure Dominique a brièvement rappelé, qui fait que l'idéal aurait été pour Ben-Gourion, par exemple, d'avoir un État juif à 100%, et donc qu'il fasse un nettoyage ethnique. Mais c'est ce qui s'est passé aussi, par exemple, en Turquie. En Turquie, les chrétiens ont été soit massacrés, enfin massacrés, c'est un génocide, le génocide des Arméniens en avril 1915, et il restait encore des chrétiens, les Grecs orthodoxes. Les Grecs orthodoxes, ils ont été chassés et on a procédé à un échange de population avec les Grecs musulmans. Qui sont, voilà. Donc on est dans une situation, en Irak, on a cherché à écraser les Kurdes. Enfin, on pourrait comme ça, tout ce qui est Proche-Orient, pas tout ce qui est Golfe, mais tout ce qui est Proche-Orient relève d'une même incapacité à construire un État-nation, et à plus encore un État-nation démocratique. Je crois que c'est vraiment un problème global. Et donc voilà, ça c'est... Sur la communauté internationale, bon, quand on dit la communauté internationale, on dit rien du tout. Ça veut rien dire. La seule réalité de la communauté internationale, c'est les Nations Unies, et plus précisément, c'est le Conseil de sécurité. Or, le Conseil de sécurité, pour des raisons que chacun connaît, est évidemment bloqué par le système de droit de veto. Et pour changer le droit de veto, il faudrait passer par le Conseil de sécurité, qui évidemment mettrait son droit de veto à changer le droit de veto. C'est ça la réalité. Donc je crois vraiment que c'est important. Et puis un dernier mot sur, parce que à partir des revenus, j'ai commencé mon intervention en disant que j'avais écrit un article sur la loi la nation du peuple juif, et j'avais terminé en disant « c'est de l'apartheid ». Mais j'ai bien précisé que ce n'était pas un crime d'apartheid. Enfin, je n'ai pas précisé dans la tribune, mais c'était le système. Et effectivement, c'était un système. Alors, le mot, en fait, la vraie question aussi qu'on pourrait débattre, c'est est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser ce terme ? Est-ce que d'autres thèmes ne seraient pas plus intéressants et plus efficaces ? Qui serait, par exemple, la notion de ségrégation, domination et ségrégation. Apartheid, si vous regardez, c'est toujours extrêmement clivant parce que tout de suite, ça suscite des passions. Et il y a par exemple, dans le texte du rapport, j'y reviens une seconde, on fait référence à une convention, qui est la convention de 1973. Alors c'est une convention qui a une histoire très particulière. Une histoire très particulière qui est signée par une partie de l'humanité, de la communauté, et qui est tout à fait critiquée par l'autre partie de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup mieux de se référer, quand on parle de crime d'apartheid, non pas à cette convention, mais surtout au statut de Rome, qui lui aussi, il y a des gens il y a des États qui ne sont pas partis au statut de Rome, les États-Unis ne sont pas membres, la Chine, etc. Donc voilà, donc je crois que la communauté internationale, c'est, si on veut être un peu réaliste, c'est celle qui peut agir, et c'est le Conseil, c'est pas l'Assemblée, parce que l'Assemblée, elle est déjà acquise très largement au droit des Palestiniens.
Est-ce que je peux dire les choses d'une autre manière, pas pour prendre la défense d'Amnesty en soi, mais pour essayer de comprendre pourquoi, comme par hasard, au même moment, B'Tselem, Human Rights Watch et Amnesty font mûrir, disons...
Mais pas de la même façon.
Non, je suis d'accord, mais je veux dire, pourquoi, c'est, à mon avis, c'est pas par hasard que c'est au même moment que ces trois organisations, qui sont chacune très importantes dans leur domaine, ont la même volonté de faire mûrir un concept, je ne dis pas nouveau, mais d'un concept qui n'est pas dans la tradition ni onusienne, ni sur la question israélo-palestinienne.
C'est complètement logique, puisqu'on se fonde sur le droit international. Voilà. Lorsque un concept existe et qu'on peut s'appuyer sur le droit international pour essayer de faire la démonstration que tous les éléments sont là, évidemment qu'on y va.
Mais là, on a tardé. Attendez, à chaque fois qu'on parle de ça, il faudrait dire je parle de l'apartheid comme système ou je parle de l'apartheid comme crime. Mais, et c'est pas la même chose.
Non, si on s'arrête au système, on fait quoi?
Ce que je voulais dire,
on demande
Cécile,
quoi? Son démantèlement aussi.
Non, ce que je voulais dire, Cécile, si vous me laissez le dire quand même, c'est que moi j'ai vécu ça dans le mouvement de solidarité. On est arrivé à un moment d'épuisement intellectuel. Parce que d'un côté, ça fait pas de doute. On regarde le vote annuel à l'ONU sur le droit à l'autodétermination et un État du peuple palestinien. On a 170 États qui votent pour, un certain nombre qui s'abstiennent, et il ne reste plus que 5 qui votent contre. Or, bien qu'il y ait ce consensus universel, on n'arrive pas, et qui est relayé largement dans les opinions, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, madame, peut-être au niveau individuel, mais globalement, quand on voit les sondages, y compris en Occident, je ne parle même pas dans les pays du Sud, il y a un consensus autour des droits des Palestiniens qui est un consensus extrêmement large, qui n'existait pas il y a 20 ans, ou il y a 40 ans, ou il y a 50 ans. Donc on a ce consensus au niveau des États, très large, ce consensus dans les opinions, et on n'arrive pas à ce que ça bouge. C'est pour ça que je parle d'épuisement, à un moment donné, à la fin du XXe siècle. Donc il y a eu un travail, alors je ne sais pas si l'idée de focaliser sur l'apartheid est la bonne, je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est une tentative pour donner un autre levier pour que l'opinion puisse peser sur les États et que les États soient tenus...
À condition voilà, que ça ne soit pas exclusif des autres leviers.
Voilà, et qu'on présente voilà, ça globalement. Et à mon avis, c'est exactement la question que je voulais vous poser pour qu'on termine autour de ces questions-là. C'est-à-dire, au fond, est-ce que la vraie question, ça n'est pas
Est-ce que le concept apartheid est un bon concept? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est adapté? Est-ce qu'il faut l'utiliser? Mais comment faire en sorte qu'il trouve une place qui n'est pas une place exclusive, d'accord, mais qui est une place parmi d'autres?
Il n'en a jamais été question.
Mais compte tenu qu'on en a besoin, c'est-à-dire de toute façon, on a besoin d'une dynamique nouvelle qui permette d'avancer.
La façon dont nous procédons, c'est qu'effectivement, chaque rapport jusqu'à présent avait un focus. Et sinon, on pourrait nous dire ça à chaque rapport. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de ceci, ceci, cela? On ne peut pas faire comme ça. C'est un peu comme un puzzle. On fait des briques et on espère à chaque fois revenir quand même un petit peu sur un élément ou un autre. On ne pouvait pas revenir sur l'occupation, je le répète, parce qu'on n'a pas encore, je l'espère, bientôt on en aura une. Pour l'instant, on n'a pas de positionnement là-dessus. Et donc, on a, avec les moyens que nous avons, remis en avant bien des violations qu'on a condamnées, les détentions administratives répétées, les homicides illégaux, la question donc de l'embargo sur les armes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont revenues dans ce rapport quand même. Essayer de décrire la situation.
Vous n'avez pas de position sur l'occupation ?
Non. Je me tue à le dire depuis tout à l'heure, c'est qu'on a commencé par...
Ça veut dire quoi, ne pas avoir de position sur l'occupation ?
Amnesty International, pour l'instant, dans son fonctionnement, avec ce principe d'impartialité, voyez en fait certaines portes se refermer en quelque sorte. On ne peut pas aller dans certaines directions où ça nous emmènerait sur un terrain trop politisé.
Mais c'est celle du droit international.
Alors, c'est plus compliqué que ça.
Non, attends, juste un peu. Je vais dire un mot là-dessus.
Jean-Paul.
Oui, parce que moi, je trouve ça... Vous dites... Non, attendez, il y a un vrai problème.
On est en train d'y travailler.
D'accord. Mais il y a un vrai problème. Vous dites, on est impartial. Très bien. Mm-hmm. Vous sortez ce rapport que j'ai critiqué en partie, notamment parce qu'on ne parlait pas de ce qui me paraît fondamental et au sens propre du terme, c'est-à-dire que l'apartheid dans les territoires occupés, c'est lié à une occupation militaire et à une guerre. Et vous me dites, on ne peut pas prendre position sur l'occupation. Mm-hmm. Et ensuite, vous me dites...
Pas plus que Human Rights
Watch. Non, attendez, vous me dites, on se conforme au droit international. Mais enfin, s'il y a bien quelque chose qui est ultra documenté par le droit international, à l'unanimité, cette fois-ci, non pas de l'Assemblée générale, mais du Conseil de sécurité, compris donc les États-Unis, c'est tout de même assez extraordinaire. Le Conseil de sécurité, la dernière résolution importante, on la connaît par cœur, Dominique et moi, c'est la résolution 2334 du 23 décembre 2016, qui dit très clairement tout cela, et qui commence par le principe l'inadmissibilité des territoires occupés par la force. Donc, me dire
Est-ce que vous parlez de la même chose ?
La question de l'occupation que je ne vois pas dans le texte, et en particulier dans les recommandations, me dire qu'on a un tout, laisse-moi finir.
Mais ce n'est pas ça que j'ai compris. Moi, j'ai compris que Amnesty n'avait pas de position sur l'issue. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut un État, deux États, une confédération
vous avez posé la
C'est
question.
Ça que j'ai compris, moi.
Je disais, ou plutôt, j'essayais de dire que j'ai peut-être mal compris, mais ne pas avoir de position sur l'occupation militaire, c'est-à-dire exiger la fin de l'occupation, c'est ça que ça veut dire. Vous avez une position là-dessus qui demande la fin de l'occupation. Je disais que ce qui me frappe dans ce rapport, justement, c'est qu'on ne parle pas de la fin de l'occupation. C'est ça, et ça c'est objectif, et ça m'a beaucoup étonné. Et là vous me dites, mais on n'a pas de position sur l'occupation. Alors maintenant je vous laisse la parole.
Je vais essayer d'être beaucoup plus rapide pour dire en deux phrases qu'effectivement nous avons condamné de manière répétée ces colonisations illégales. Je dis et je répète que pour l'instant, on est effectivement en train de travailler d'abord sur une politique sur l'occupation
Général. Voilà la clé qui me manquait.
Mais j'ai essayé de le dire plusieurs fois, mais je ne suis pas entendu.
Mais non, mais ça me paraissait tellement énorme.
Mais c'est pour ça.
Ça me paraissait tellement énorme.
En fait, je répète que c'est un peu comme un puzzle qu'on cherche à brique par brique à mettre en place. Bah. Sur l'occupation, c'est très compliqué effectivement de prendre position sur l'occupation d'une manière qui sera impartiale. Ça veut dire qu'on a la même grille qu'on va pouvoir appliquer à différents pays.
Bien sûr.
Et que donc ça c'est pas du jour au lendemain. Surtout quand on veut qu'on l'applique, cette volonté de ne pas partir vers des décisions qui seraient politisées, je le répète.
Et
c'est beaucoup plus facile pour vous que pour
est-ce
moi
que
aujourd'hui
je peux dire un mot
de défendre ce rapport.
Est-ce que je peux dire un mot?
Non, mais
Jean-Paul, est-ce que je peux dire un mot? C'est qu'il faudrait quand même accepter que dans l'univers dans lequel nous vivons, il y a des ONG.
Ben oui.
Et que ces ONG, il y en a qui sont internationales et qui ont une réflexion qui n'est pas la nôtre, qui est leur propre réflexion. Je crois comprendre, si je me trompe, que la publication coup sur coup du rapport de Bethlehem, de celui du Human Rights Watch, de celui d'Amnesty, avec leurs qualités et leurs défauts, à chacun des trois, a provoqué une tempête internationale, a provoqué en France en particulier une tempête contre Amnesty. Si vraiment Amnesty était défectueux dans la défense du droit international, on n'aurait pas eu cette tempête. J'ai vraiment une question. C'est est-ce qu'on n'a pas toujours un temps de retard sur la réalité ? Parce que cette discussion que nous avons aujourd'hui, elle intervient alors que des dizaines de milliers de judéo-nazis, de fascistes, de suprémacistes juifs ont défilé dans Jérusalem avec une violence protégée par l'armée, avec une coalition comprenant la gauche sioniste au pouvoir qui a laissé le défilé se faire et traverser les quartiers chrétiens, musulmans et arméniens, alors que même Netanyahou ne l'avait pas laissé faire il y a un an. Je me demande si ce débat que nous avons eu, par rapport à la gravité de la radicalisation de la situation, et notamment du côté de ce que sont les forces de l'extrême droite israélienne, on n'est pas un peu en train de discuter du sexe des anges. C'est-à-dire si on n'est pas en train de parler d'autre chose que voilà, de l'extrême gravité de ce qui s'est passé depuis l'assassinat de Shirin Abu Akleh.
C'est un peu dommage.
Et hier, avant-hier.
C'est un peu dommage de voir passer trop de temps à justifier ce qui n'est pas dans le rapport, alors que je trouve intéressant de discuter sur, comme on l'a fait d'ailleurs aussi, sur système, crime, est-ce qu'on devrait dire les deux ou pas ? Oui, mais après, c'est ça que j'ai appelé le whataboutism. Si on passe notre temps à dire oui, dans ce rapport, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ben oui, moi je ne peux pas, en tant que porte-parole, aller inventer toute seule une position, là je me contredirai le lendemain d'ailleurs, sur un thème qui certes est majeur, j'en conviens, mais en l'occurrence, moi je ne peux rester que dans le cadre qui est le nôtre et de ce rapport-là, effectivement avec ce constat d'apartheid qui est déjà énorme, qui a déjà provoqué des déferlements, y compris de haine et de colère, notamment à mon encontre d'ailleurs, je ne fais que relayer cette recherche. Et donc, c'est effectivement important, je pense, d'essayer de voir aussi les choses avec une loupe, parfois, et pas tout le temps, toute la big picture, comme on dit en anglais. Et là, effectivement, on a mis une loupe sur ce concept d'apartheid, avec le plus de détails possible. Et voilà, moi, je pense que ça peut quand même faire prendre conscience à la population, prendre conscience à des citoyens, prendre conscience, je l'espère, à un moment donné, aussi à des pays dans la communauté internationale, pour essayer de faire en sorte que ce bloc bouge un peu, quoi. C'est ça qui
Jean-Paul.
Est...
Alors, un dernier mot. Moi, je vais rester donc sur le droit international et cette notion d'impartialité. J'avoue que je suis stupéfait d'apprendre que Amnesty n'a pas de position là-dessus sur la question de la fin de l'occupation. Ce n'est pas être impartial, c'est justement si on dit qu'on est en conformité ou qu'on suit le droit international sur un plan, il faut le suivre dans sa globalité. Or le droit international là-dessus, il est absolument clair depuis 1967 et là encore avec le Conseil de sécurité. Et je voudrais dire un point important, c'est que quand on parle du droit international, vous avez qu'est-ce que c'est le droit international ? Ça veut dire que les États se mettent d'accord sur un certain nombre de choses. Quelquefois ils se mettent d'accord à 100%. Quelquefois, ils se mettent d'accord à 50%. Le cas de la CPI, il y a des États qui n'en sont pas. Le cas de la Convention de 73, alors là, c'est encore pire, pour plein de raisons sur lesquelles on ne va pas insister. Mais sur la question de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force, et donc la fin de l'occupation militaire, c'est 100% dans les conseils, dans les résolutions de 242 en 76 jusqu'à aujourd'hui.
Choses différentes, en fait.
Et donc, effectivement, je ne comprenais pas, maintenant j'ai compris, et enlever, si on met fin à l'occupation, ce qui est pour l'instant pas à l'ordre du jour, eh ben, il n'y aura plus d'apartheid dans les territoires occupés. Je veux dire. Et qu'on ne parle pas de cette occupation, je comprends pourquoi, et j'en suis, mais vraiment très étonné.
Comme on dit, c'est la fin de notre émission.
Voilà, très bien.
Il faut rendre l'antenne à Cognac-G.
On va rentrer l'antenne.
Je dirais juste un souvenir personnel. Moi, j'ai souvenir d'une longue période où Amnesty ne disait pas un mot sur le conflit israélo-palestinien. Jamais. C'était sa position, on disait rien. Moi, personnellement, avec les qualités, les défauts des textes des uns des autres, celui-là comme les autres, je me suis, moi, très content que Amnesty, avec certainement des choses qu'on peut critiquer, approuver, je suis très content qu'Amnesty soit en plein dans ce combat, et j'observe que ça n'est pas passé inaperçu, ni en Israël, ni au Quai d'Orsay, ni à l'Élysée. جبل يمول للموقدين النار بين اليمن يمن عيني للهنا يا روح اسا فانا ديرينا تنتس نومس جوغادورا بوراتشا يا اميغا دي هومبرس اي كي بانادرا اي كي بانادرا
Radio Campus.